Nous sommes ravis de vous retrouver dans votre émission Le QG de l'actu, le tout dernier numéro de ce mois d'août. Hein, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons dans ce énième numéro de votre émission. Laquelle émission va revenir ce soir sur deux thématiques, à savoir suspension des salaires de plus de 36 000 fonctionnaires non enrôlés par le SIGRH, entendez justement par là le système intégré de gestion des ressources humaines. Et c'est avec un communiqué du ministre en charge des Finances et de l'Économie qui a justement demandé la suspension de ces, en tout cas de ces salaires hein, alloués à ces fonctionnaires que nous pouvons penser fictifs, et lequel montant est fixé à plus de 48 milliards de nos francs par an. Qu'est-ce qu'il faut justement comprendre de cette initiative, même si nous savons très bien que c'est une mesure provisoire qui rentre en vigueur dès ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'il faut justement comprendre cette actualité? Nous allons essayer de comprendre les enjeux avec nos différents invités. Deuxième sujet de ce débat, nous nous intéressons justement à cette condamnation des sanctions contre les militants panafricanistes. Il s'agit justement des ministres en charge de la justice et de droits de l'homme hein, qui ont justement se sont indignés de cette action de l'Union européenne, mais aussi de certains pays. Voilà, pour eux, c'est une sorte de harcèlement contre, en tout cas, des militants panafricanistes, notamment Franklin Nyamsi, que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps sur ce même plateau, mais aussi Kémi Séba, Ibrahim Maïga et puis Nathalie Nyam, pour ne et que ceci. Que faut-il justement comprendre de cette indignation des États de l'AS? C'est donc les différents sujets que nous allons essayer de comprendre avec nos différents invités, dont Badou Sidi Kouba, qui n'est plus à présenter sur les plateaux de Djouliba TV News. Monsieur Badi, Badou, bonsoir et bienvenue.
Il
ne
faut pas faire la confusion entre Badi et Badou.
Bien sûr.
Badou Sidi Kouba. Monsieur Omar, c'est le lieu de vous féliciter, de vous rendre hommage pour le travail colossal que vous êtes en train d'abattre. Parce que assurer la police des débats par ces temps qui courent, ce n'est pas évident. C'est le lieu aussi de remercier le docteur Alidi Agali-Mele, ensuite mon frère, le grand consultant, et les techniciens de Djoliba qui font un travail remarquable. Je l'ai toujours dit, Djoliba, c'est la télévision de la diversité, c'est la télévision du donner et du recevoir. Vraiment, souhaitons que le débat là se fasse dans de bonnes conditions, parce que nous savons tous qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse désormais sur la tête des débatteurs.
En tout cas, c'est bien dit, M. Badou Sidi Kouba. Et nous autres, au niveau de Djoliba, quand même, nous avons fait le serment de pluraliser la parole afin que toutes les voix puissent converger et que chacun puisse aussi opiner par rapport, en tout cas, à la marche de la nation. Ceci dit, vous l'aurez compris, deuxième invité de ce débat, c'est un revenant qui était quand même perdu à un moment donné, hein, des radars sur les plateaux de télévision, bien que c'était un brillant analyste, docteur Ali Di Agali-Wole. Il est spécialiste de santé publique et communautaire, mais également analyste, monsieur Olé, bonsoir.
Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Et le public en a besoin. Et je pense que nous allons faire un bon débat aujourd'hui.
On espère aussi, monsieur Olé. Et alors, troisième invité, vous l'aurez compris, il s'agit également de monsieur Asseidi Maïga, qui est à sa troisième participation à ce débat. Toute chose qui prouve que, en tout cas, il y a de la matière, parce qu'à Djoliba TV News, la parole n'est pas quand même donnée à tout le monde. Ça, il faut le dire aussi. Il faut que vous ayez des idées à défendre, que vous soyez d'un bord de notre bord. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de Djoliba. Monsieur Asseidou Maïga, bonsoir, consultant.
Bonsoir, Traoré. Merci beaucoup pour l'invitation et l'accueil que vous m'accordez sur votre plateau pour une troisième fois encore. Je salue aussi mes co-débatteurs et toute l'équipe technique de votre émission QG de l'actualité. Merci.
Merci à vous, M. Aïdara. Alors, nous avons un clin d'œil quand même à M. Badi Aïdara aussi, qui est aussi un habitué de nos plateaux, même s'il n'est pas, en tout cas, sélectionné pour cette semaine. Vous l'aurez compris, hein, nous allons justement nous pencher sur la première thématique, à savoir la suspension des salaires, pour être plus précis, hein, 36 151 fonctionnaires. Ce sont des agents de l'État, mais aussi des fonctionnaires de collectivités et territoriales qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas été enrôlés à l'heure actuelle, faut-il le dire, parce qu'il y a quand même plus de 36 000 qui n'ont pas été enrôlés, même si nous savons très bien que le total des enrôlés, c'est 158 317. Et parmi ceux-ci, il y a donc 122 qui ont été, 122 166 qui ont été enrôlés et malheureusement 36 151 n'ont pas répondu présent à cet appel, ce qui fait déjà, comme nous l'avons dit, une masse salariale de plus de 48 milliards de nos francs. Il y a aussi des cas de doublons qui ont été signalés sur les 122 166 justement qui ont été enrôlés et on nous parle d'une situation provisoire de 3 mois. Badou Sidi Koba, j'imagine que vous avez pris connaissance de cette note du ministre en charge de l'économie et des finances. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà?
Ce qu'on peut retenir par rapport au système intégré de gestion des ressources humaines, c'est que techniquement c'est une très bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du peuple malien. 36 000 fonctionnaires fictifs, plus de 48,28 milliards d'incidences financières sur le budget national, c'est quand même gros par rapport à un pays qui est en guerre depuis 2012. C'est très important de le signaler autour de ce plateau. Maintenant, par rapport aux enquêtes qui ont été effectuées pour pouvoir déceler cette faille, il faut remercier les enquêteurs parce que c'est un travail colossal qui a été abattu et ceux qui ont fait ce travail ont fait preuve de discernement et de tact. Et j'exprime un certain nombre d'opinions par rapport à cette situation. D'abord, et par rapport aux 36 000 fonctionnaires, le travail qui a été abattu, comment en est-on arrivé là? Pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour éviter cela? Je crois qu'il y a eu un premier contrôle physique sous Ibeka, si j'ai bonne mémoire, où le contrôle n'a pas été effectivement bien fait, surtout au niveau du ministère de l'Éducation, parce que c'est là où les bas blessent. Parce que en des pareilles circonstances, il faut faire attention et il faut tamiser département par département. Je prends le cas spécifique du ministère de l'Éducation. En son temps, Poulou avait donné l'alerte en disant que il y a beaucoup d'enseignants fictifs qui ont été délaissés, qui ont été décelés, dont l'incidence financière est de 4 000 milliards de francs CFA.
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de Sueni Amion Guindo, c'est ça,
qui a été ministre de l'Éducation nationale. Je le précise, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Okay. Donc il avait parlé d'une incidence financière de 4 milliards de francs CFA. Parce que ce qui a été dit, on nous a demandé de faire attention. Parce que sur les 36 000 fonctionnaires, il a été clairement dit qu'il y a des cas de doublons, vous l'avez souligné. Il y a des cas où vous trouvez que il y a certains qui étaient des fonctionnaires de collectivité, mais ils ont passé à d'autres concours, ils sont partis, ils continuent à percevoir les salaires. D'autres ont pris des disponibilités pour aller dans d'autres ONG ou bien dans d'autres structures, mais le salaire continue à tomber. D'autres aussi sont morts, le salaire continue à tomber. Il y a le cas des doublons aussi qui perçoivent à la fois deux salaires. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs, mais il faut faire extrêmement attention. Parce que si on dit tout de suite que 36 000 fonctionnaires sont concernés, il y a des cas d'omission aussi. Parce que l'administration étant ce qu'elle est, nous savons tous qu'au niveau de nos administrations, il y a réellement des problèmes, il y a des cas d'omission. Donc il y a des personnes qui peuvent facilement se justifier. Peut-être d'autres ont eu la paresse aussi d'aller se faire recenser, etc. Mais avec la digitalisation, il y a de l'espoir, il y a des raisons d'espérer que ces personnes vont revenir à des meilleurs sentiments pour se faire enlever. Et le délai de 3 mois. Et durant ces 3 mois, le ministre a été clair, les salaires seront suspendus. Maintenant, ce que nous souhaitons, si réellement il y a des cas de fraude, que ces personnes soient lourdement sanctionnées, que ces personnes-là soient mises à la disposition de la justice, qu'ils répondent de leurs actes et qu'ils remboursent ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils ont avalé injustement. Parce que nous sommes en passe d'être un pays de droit. Et quand on est dans un état de droit, je crois que la corruption, la gabegie, la concussion, la prévarication n'est pas tolérée. Donc vivement que des sanctions adaptées tombent. Pour terminer aussi, je vais m'appesantir aussi sur le cas des reclassements au niveau de certains GRH. Vraiment, c'est un désordre indescriptible. Parce qu'avec le système des universités privées, on donne les diplômes à tort et à travers. Les reclassements se font à tort et à travers. Il faut faire attention par rapport à cela, surtout au niveau du département de l'éducation.
Très bien. Alors, monsieur Wally, on sait très bien que généralement, le Malien, quand on leur demande, en tout cas, un tel service, notamment les enrôlements, nous avons vu le cas de l'assurance maladie obligatoire. Il a fallu quand même qu'on torde un peu la main à certains Maliens pour qu'ils aillent le faire. Chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, les gens traînent les pas avant de le faire. On sait très bien que cet enrôlement biométrique est en cours depuis quasiment quelques mois déjà. Justement, le rapport officiel, la remise officielle a été faite, c'était le 15 août dernier. La commission qui a remis son rapport au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, on sait très bien que le Malien, dans sa nature, quand même, est trop lent, en tout cas, pour aller dans de telles initiatives. Est-ce que à cela aussi, le fait qu'aujourd'hui, que les autorités décident, en tout cas, de suspendre les salaires tout de suite là, de façon immédiate, comment trouvez-vous cette initiative déjà?
Merci beaucoup. Et c'est une situation d'abord inquiétante et qui donne à réfléchir. Et c'est vrai que c'est un rapport qui a été déposé. Et jusqu'à peu près, le contact, je vais dans l'hypothèse que toutes les dispositions ont été prises pour confirmer ce qui vient d'être annoncé. Et parce que nous savons que techniquement, souvent, dans nos administrations, et certains agents techniques font le travail un peu à main levée. Et j'espère que toute la rigueur a été utilisée et pour qu'on puisse être sûr de cette affirmation, de cette confirmation de l'annonce qui a été faite. Parce qu'il ne faudra pas qu'on mette l'État en erreur. C'est très important parce que nous sommes dans un pays où souvent les services techniques, souvent, le plus souvent, ne s'appliquent pas dans la rigueur, dans l'application de leurs fonctions. Et si tel est le cas, je me dis, c'est très facile à contrôler. Parce que quelqu'un qui reçoit un salaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il a un compte. Il a un compte bancaire, on sait que la personne prend. Et est-ce qu'on a eu le temps de vérifier exactement, même ne serait-ce que quelques échantillons, pour vérifier réellement ces personnes, est-ce qu'ils perçoivent directement? Et comment le système marche? Est-ce que le salaire a été viré qu'ils sont partis prendre? Parce que c'est facile à vérifier. Et est-ce qu'on a vérifié au niveau de la fiche le nom? Parce qu'ils sont supposés dans un service. S'ils sont dans un service, on doit savoir qui est le responsable. Est-ce qu'ils sont là ou pas? Comment ils prennent l'argent? Ce n'est pas le fait de ne pas t'envoler. On peut faire une petite vérification. Et je vais dans l'hypothèse qu'ils ont fait tout ça pour affirmer, donner cette confirmation. Et dans la situation, et je sais pas, le Mali n'est pas le seul cas, on a vu dans beaucoup de pays. Voilà. Où il y a des situations, on parle d'une situation fictive, le Cameroun, le Congo, etc. Il y en a plusieurs. Mais l'important, ça veut dire tout simplement, on a des failles. Et dans nos systèmes qu'il faut corriger. Et c'est pourquoi je suis très content quand on parle de la modernisation de l'administration publique. C'est très important dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de fonctionnaires, mais c'est dans tous les secteurs qu'on doit le faire. Parce que quand on parvient à informatiser, il y a moins d'erreurs. Il y a moins d'erreurs. Et même là, il faut que les gens s'appliquent. Je prends l'enroulement par rapport au RAVEC. Il y a combien d'erreurs? On continue, on fait des va-et-vient. Il faut qu'il y ait cette rigueur dans l'administration. Et que chaque malin s'applique. Et quand je prends responsable des services publics, le directeur, par exemple, doit savoir quel est son effectif. Est-ce que les agents viennent? Est-ce qu'ils sont opérationnels? S'ils ne sont pas opérationnels, c'est la personne qui doit d'avoir notifié. Ça, c'est le rôle et c'est important. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que c'est à un niveau national que le travail n'a pas été fait? Bref, je pense qu'on doit analyser tout un processus par rapport à cette situation qui ne doit pas être faite. Et je garde tout des réserves parce que je me dis, la suspension est déjà une méthode pour amener les gens à corriger. S'ils n'avaient pas l'information, est-ce que l'enroulement a été mal fait, etc., etc. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas l'information? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont fait qu'ils n'ont pas été enroulés? Peut-être on aura. Avec la suspension, ces personnes vont forcément aller se faire enrouler. Parce que quand on coupe ton revenu, il n'y a même pas de question, tu vas partir. Maintenant, ceux qui ne se présenteront pas, peut-être, est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est des erreurs, etc.? Et l'État pourra faire la part des choses. Et en ce moment, toutes les dispositions correctives peuvent être prises, même sur le plan administratif, pour pallier à ces situations. Je prends un exemple, quelqu'un peut décéder, le salaire tombe. Voilà. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre à sa place? Ce n'est pas exclu. Est-ce que quelqu'un n'est plus en service, il n'est même pas au Mali, mais il continue à prendre son salaire? Ce n'est pas exclu. Peut-être qu'il est parti pour d'autres raisons, pour une interrogation. Et ça, tout ça, on doit avoir des éclaircissements. Et c'est facile. Parce que s'ils sont affectés dans un CEO, là, ça où est-ce qu'ils sont partis? Et pour moi, ce travail doit être approfondi et pour que l'État puisse gérer ses maigres ressources. Et c'est pourquoi je l'ai dit, et je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas assez de moyens. Mais le peu de ressources qu'on a, si on ne gère pas bien, c'est du gaspillage.
D'accord, oui. Justement, le peu de ressources qu'on a, hein, si ce n'est pas bien géré, c'est du gaspillage, parce que beaucoup de gens pensent effectivement, hein, je vais revenir bientôt, docteur Bellé, alors qu'on est en train de lapider, en tout cas, les derniers fonds que nous avons. Justement, toutes les questions qu'il a eu à soulever tout à l'heure, on se pose la question, monsieur Maïga, hein, alors si toutefois, parce qu'on sait très bien que cet enrôlement n'est pas à sa prière, Badou l'a rappelé, on se rappelle sous Ibrahim Boubacar Keïta, père à son âme, ça a été fait. On sait très bien que l'ancien ministre de l'Éducation, Ousseni Amion Guindo, avait fait la même chose quand il était ministre de l'Éducation nationale. Si tous les départements avaient agi ainsi, est-ce qu'on serait arrivé à ce niveau? Et si toutefois les dispositions avaient été prises, est-ce que cette question allait se poser aujourd'hui en 2025?
Eh bien voilà, la question, la très bonne question, c'est ça. S'il y a eu des travaux précédemment réalisés avec d'autres ministres, d'autres gouvernements, mais ça s'est arrêté à la dénonciation. On nous a donné des chiffres de fonctionnaires fictifs, mais il n'y a pas eu de mesures qui permettaient d'alléger ou bien d'amoindrir cela. Aujourd'hui, le gouvernement actuel a pris des mesures drastiques. Ils ont décelé ces chiffres qui ont un montant faramineux. Aujourd'hui, on a de maigres ressources, on n'a pas d'argent, donc il faut prendre des mesures concrètes et drastiques pour pouvoir essayer de pallier à cela. Donc c'est la suspension annoncée par le ministre de l'Économie et des Finances. Ça va permettre d'aller encore en profondeur parce qu'il y a des fonctionnaires qui vont se sentir lésés pensant qu'ils existent. Ils vont venir régulariser leur cas. Mais il y a une grande majorité qui n'existe pas du tout. Vous avez dit qu'il y a des gens qui sont décédés, qui touchent les salaires. Il y a des enseignants qui touchent deux fois, qui sont doublons sur les enregistrements. Il y en a qui n'existent même pas dans les fichiers, mais qui continuent à percevoir des salaires. Il faut situer les responsabilités. Maintenant, l'action la plus efficace et la plus concrète qui avait à faire, c'est ce qui vient de se faire actuellement. Ça va se corriger progressivement, mais... Excusez-moi, la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines, c'est le système le plus efficace pour lutter contre ces genres de problèmes dans le domaine public. Dans le privé, ça n'existe pas. Parce qu'on a des systèmes de contrôle interne, on a des systèmes de gestion des ressources humaines qui sont suivis à la lettre au franc près. Mais comme il y a trop de laisser-aller dans le domaine public, personne ne joue son rôle, les responsabilités sont dégagées, tout le monde veut se faire de l'argent tout de suite, les équipes techniques ne font pas. Donc ces choses-là arrivent. Et l'argent de l'État est dilapidé par certains, par des agents de l'État qui se plaignent demain qu'on n'a pas assez d'infrastructures routières, on n'a pas assez d'infrastructures de santé, on n'a pas assez d'écoles, etc., etc. Et les fonctionnaires aussi qui se plaignent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins, qu'il faut des augmentations. Tout ça, ce sont des chiffres qui permettraient de pallier à ces problèmes-là progressivement. Donc maintenant, on va saluer cette mesure de la plus belle des manières. Maintenant, les enseignants ou les fonctionnaires plutôt qui vont se sentir lésés dans cette affaire, je pense qu'ils vont aller courir tout de suite pour se régulariser. Et quant aux autres, ça va définitivement permettre à l'État de récupérer une grosse somme d'argent qui va rentrer dans d'autres dépenses ou bien affecter sur d'autres postes.
Très bien. Oui, il parlait tantôt du laisser-aller dans nos services, monsieur Wolley. C'est quand même monnaie courante aujourd'hui, le laisser-aller, le laxisme même, si on peut l'appeler ainsi. Cela peut être imputé au directeur parce qu'il n'y a pas de service sans qu'il y ait un responsable. Est-ce que si les responsables des différents services avaient vraiment joué pleinement leur rôle, est-ce que vraiment on serait arrivé à cette situation aujourd'hui?
C'est une question très complexe. C'est très complexe parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas des comportements positifs dans nos différents services. Et vous savez, même souvent, le fait d'être directeur, comme on arrive à être directeur, c'est important. Et quand on arrive, est-ce qu'on s'assume par rapport aux fonctions qui nous sont assignées? C'est ça la grande question. Parce qu'un directeur a le droit de veiller sur son effectif, de voir que toutes les conditions sont réunies. Est-ce qu'il a un effectif suffisant ou pas? Et quand il y a des mouvements, c'est le responsable qui doit signaler. Quel que soit le mouvement, quel que soit le truc, même ceux qui sont absents, il doit le signaler. Et parce que sans ce travail, l'administration ne pourra pas vraiment faire un travail collégial et un travail vraiment assez suffisant pour pouvoir juger l'effectif et même l'efficacité de l'administration. Vous allez voir dans certains services, il y a certains qui ne viennent jamais, mais pourtant ils sont payés. Même dans les services publics, où il y a les entreprises privées, vous allez le constater, ça existe même aujourd'hui, c'est sûr et certain. Il y a certains qui ont, je dirais peut-être, cette couverture, ils bénéficient de leur salaire, mais ils ne sont pas dans l'administration. Voilà, tout le monde sait, ils viennent de temps en temps, mais ils sont payés. Ça, c'est un cas, même s'ils sont payés, on doit tenir compte de l'efficacité de l'utilisation des ressources de l'État. Il y a certains, ils sont fonctionnaires, vous allez trouver s'il y a eu des cas, et quand ils sont relevés, c'est difficile de les mettre dans les positions encore pour pouvoir travailler. Ils prennent du temps avant d'être affectés souvent, ou on les met dans les postes, et ces gens aussi souvent prennent du temps à faire autre chose, ne se sentent pas intéressés par rapport à la prise de service. Et c'est pourquoi je dis, est-ce que je vais dans l'hypothèse que toutes les dispositions ont été prises pour analyser ces 36 000 personnes qui sont fictives. Et la responsabilité d'un responsable de service est suffisamment engagée ici. Parce que si toutes les autorités jouent son rôle, tous les départements jouent leur rôle pour connaître un peu la situation de l'effectif, du niveau le plus élevé jusqu'au niveau périphérique, je pense qu'on ne devrait pas arriver à cette situation. Et ensuite, quand on fait un paiement, on doit savoir que le paiement, là où, même s'il y a des doublons, vous faites le même exercice, c'est payé peut-être au même endroit, est-ce que c'est des salaires différents? Les techniciens doivent le savoir. Est-ce que c'est par incompétence ou bien par complicité? Je pense que c'est bon d'analyser et de comprendre. Et pour moi, quand on est directeur, il est important de signaler toutes les anomalies. Et j'ai eu l'idée souvent, il y a des gens, on les affecte, après ils ne viennent pas. Voilà. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont démissionné? Est-ce qu'ils prennent les salaires juste pour la forme? Point d'interrogation. Je pense qu'il y a tous les cas de figure qui sont envisagés pour analyser. Mais, et je demanderai aux autorités d'impliquer toujours les responsables, de s'assumer. Et ensuite, de les laisser jouer réellement leurs fonctions. Je ne parle pas de cette année seulement, mais toutes les années, il y a des directeurs, ils sont là souvent, ils jouent la façade. Ils jouent, on les dicte. Voilà. Il y a même souvent des agents qui sont dans les services qui s'imposent, même aux responsables des services. Et moi, je pense que c'est la situation qu'on doit enlever, qu'on doit arrêter pour que les administrations jouent pleinement leur rôle. Et quand on est nommé responsable dans une administration, on doit jouer sur la bonne gouvernance. Et c'est la règle de base. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de notre administration, de notre système, même du pays de façon générale. Mais en fait, les gens ne se posent pas la question, est-ce qu'ils ont joué pleinement leur rôle en tant que responsable, en tant qu'agent? Et souvent, on est dans la méconnaissance, tout le monde crie, mais l'État doit jouer et jouer ce rôle régalien pour mettre les gens sur la bonne voie.
D'accord. Oui, Balou, une autre question qui revient de façon récurrente, hein, bien avant que nous n'ayons en tout cas connaissance de cet effectif, en tout cas fictif, au compte de l'administration publique, c'est surtout le manque de rigueur. Le manque de rigueur, comme ça a été décrié sur ce plateau, au Mali, on sait très bien que dès lors qu'on devient agent de l'administration public, c'est le laisser aller. Les gens viennent comme ils veulent, ils travaillent quand ils veulent, ils rentrent chez eux comme quand ils veulent, et ils prennent leur façon, leur salaire, même si ce n'est pas, on va dire, hein, de façon incorrecte, si on peut dire ainsi, parce qu'il y a quand même, on est quand même aussi tenu souvent par le devoir de morale, il y a la conscience professionnelle aussi souvent qui doit nous guider. Alors, ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, quel est le message?
Mais ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques peu catholiques doivent être sanctionnées. C'est la preuve que l'administration malienne était une administration analogique. C'est maintenant que cette administration est en place de devenir une administration numérique. Parce que ces individus-là en question, mal intentionnés, ces individus qui n'ont aucune conscience morale, ces individus-là, en réalité, doivent être sanctionnés. Parce que vous ne pouvez pas percevoir un salaire décent sur le dos du contribuable malien, ne pas venir à l'heure au service, ne pas vous acquitter de votre devoir régalien qui est de servir le peuple. Et si on ne vous retrouve pas dans ce lot, donc vous devez être tout simplement viré de l'administration. En ce temps, c'était avant même proposer un système de contrat pour pouvoir savoir qui est le bon fonctionnaire, qui n'est pas le bon fonctionnaire. Malheureusement, les Maliens gardent en mémoire le scénario de 2012 où Ousmane Christian Diarra, qui a été directeur national de la fonction publique, c'est le lieu de les rendre hommage, où Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre, et Mamoudou Namoun Traoré, ministre de la fonction publique, ont voulu tamiser en laissant sur le bord de la route ceux qui sont mal venus à la fonction publique, ceux qui ont des faux diplômes. On connaît la suite, ça s'est très mal terminé. Et aujourd'hui, c'est les victimes. C'est les victimes. C'est ce que j'ai toujours dit. Dans ce pays-là, les victimes deviennent les bourreaux. Aujourd'hui, ces personnalités-là ne peuvent même pas aller à une cérémonie de mariage sans que ces personnes-là ne soient insultées ou humiliées. Alors qu'ils n'ont fait que leur devoir. Ils n'ont fait que les devoirs. Donc, c'est pour en rajouter à ce que mes deux co-débatteurs ont dit, il faut aller toujours dans le secteur de l'éducation. Vous savez, quand on fait les orientations, vous allez trouver qu'il y a des élèves qui quittent un lycée pour un autre lycée. Et son nom reste dans l'autre lycée. Dans l'autre lycée, on perçoit des subventions en son nom. Dans l'autre lycée, on perçoit des subventions en son nom. Et l'État n'est plus pour moi. Et au niveau du département de l'éducation, certains le savent. Il y a le cas des anciens combattants morts. Moi, je connais un monsieur qui s'est sucré, qui s'est endimanché sur le dos des anciens combattants morts. Il percevait leur pension, il se la coulait douce, il s'adonnait à tout ce qu'il... Il s'adonnait à cœur joie à toutes sortes de pratiques. Il y a ce cas-là. L'autre cas, c'est le cas des diplômes. Je vais encore revenir là-dessus. Aujourd'hui, l'école malienne a tendance à devenir comme une école mexicaine. C'est-à-dire, il y a plus de professeurs d'enseignement secondaire général que de professeurs du fondamental. Et ça, c'est dû au fait qu'on reclasse les gens de façon anarchique, de façon désordonnée, parce qu'avec le système des universités privées, on donne les diplômes comme du petit pain. Je crois qu'il y a des écoles spécialisées par lesquelles on doit passer si on veut être maître du second cycle ou bien si on veut être professeur d'enseignement secondaire. Donc, j'attire l'attention du ministre de l'Éducation par rapport à cela. Et ce bordel-là, ça se fait au niveau de la GRS. Et je n'ai pas terminé. Le président de la tranche chef de l'État, qu'il en soit remercié parce que l'année dernière, ce n'est pas tout le temps que je le remercie, il remercie. L'année dernière, il a parlé de digitalisation pour la première fois à Sikasso lors d'un meeting. Il dit que cette digitalisation va concerner d'abord les forces armées. Parce qu'il dit qu'il faut balayer devant sa maison. Donc, quand tout ça sera fait, je crois que notre administration va s'inscrire dans la continuité de la modernisation. Même si vous avez besoin d'une simple carte d'identité ou bien d'un certificat de résidence, il faut aller faire le pied de grille, souvent sous un soleil de plomb, pour pouvoir avoir le privilège de ces hommes. Donc, c'est pour dire qu'il faut moderniser l'administration malienne. Il faut extirper l'administration malienne de toutes les mauvaises graines. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. S'il faut arrêter, il faut arrêter. Malheureusement, avec le système social, là, on a tendance à dire non, il va se corriger, il va rectifier le tir. Il y a certains qui partent en leur service à 10h, à 11h. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai été dans un service pour rencontrer le DG. Je rentre au secrétariat. La dame me dit, à qui ai-je d'honneur? Elle me dit, vous t'asseoir là-bas. Après, elle me dit, vous boire de l'eau. J'ai tourné le dos. Elle voulait dire vous voulez boire de l'eau. Non, c'est la vérité que je dis. Donc, ça explique le degré de décryptile de notre administration. Donc, c'est pour quoi j'ai dit, il faut persister. Il faut que les spécialistes continuent à travailler pour tamiser cette administration, pour tamiser l'école malienne. Parce que l'administration a été trop balafrée. Il est temps de mettre fin à cela.
D'accord. Il est temps de mettre fin à cela. Oui, cela quand même prouve à suffisance, M. Veiga, que notre système, en tout cas hein, administratif, est quand même, c'était un grand corps malade. Il y a tellement de mots que c'est difficile de décrire sur ce plateau, M. Veiga.
Bon, il y a tellement de mots. Tout le monde, en fait, c'est quelque chose qui a toujours été crié. De tous les régimes, vous entendez les Maliens se plaignent de l'administration malienne. On se plaint tout le temps de notre administration. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces gens d'individus qui sont dans l'administration. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rigueur dans le recrutement. On veut juste caser quelqu'un qui n'a même pas de diplôme, qui n'a pas de formation. On le met dans un poste technique, un poste très important. Il faut produire, mais ça va, on ne va pas avancer. On va faire du surplace. Le système instauré là, c'est, moi je pense que c'est un début. Et c'est un début non seulement pour pouvoir maîtriser cette question des fonctionnaires, c'est aussi un début pour maîtriser l'efficacité de la fonction publique. Les individus, les différents fonctionnaires, les agents de l'État, techniquement, on va les évaluer. Parce que si on commence à enlever d'abord les mauvaises graines, ceux qui n'existent presque pas, ça va diminuer le chiffre. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est de voir maintenant le niveau de certains agents pour que l'administration soit plus efficace, pour que l'administration puisse produire les effets escomptés, pour que les politiques de développement puissent aller bon train, pour que les différents services donnent vraiment une image fidèle de ce que tout le monde demande, que les Maliens soient satisfaits d'un service. Tu vas payer pour avoir certains documents. C'est inadmissible. À un moment donné, on a vu les différents chiffres ont été publiés, les différents documents administratifs qu'il faut avoir. On a appris par la suite qu'il y a certains qu'on ne doit même pas payer en fait pour avoir. Si ces genres de choses ne se font pas, personne ne le saura. Et pour avoir un simple certificat de résidence ou bien un document administratif simple à la mairie, ou etc., il faut aller supplier un agent, il faut aller donner de l'argent, il faut faire ceci, alors que c'est un droit, c'est un devoir pour ce fonctionnaire-là. Il est déjà payé pour ça. Donc ces systèmes-là vont mettre en place un mécanisme d'efficacité et de rééducation, de formation des fonctionnaires qui va donner vraiment une image claire et précise et fidèle même de l'administration publique malienne pour une efficacité plus renforcée. Et c'est à saluer et c'est à encourager.
Voilà. D'accord, ok. Merci. Oui, c'est à saluer, c'est à encourager. Alors, docteur Wolé, justement, 36 151 fonctionnaires non enrôlés, qu'on peut qualifier de fictifs, cela veut dire qu'ils n'existent pas. Pourtant, les salaires continuent à être versés. Si c'est fait, justement, sont avérés. Normalement, des sanctions, des têtes devraient tomber parce qu'on sait très bien que dans chaque administration, il y a quand même des régisseurs, à mon avis, des personnes qui sont chargées de, en tout cas, d'évacuer les salaires en chaque fin du mois. Bien que ces personnes ne reçoivent pas les salaires, quelles doivent être justement les mesures? Est-ce qu'il y a des sanctions à l'issue de cela qui doivent tomber?
Et c'est là où on doit tendre, en fait. Et parce que chez nous, c'est bon de déceler les anomalies, les situations qui ne sont pas souhaitées, mais il est encore plus important de l'auditer. Tu vois, dans le sens, cette situation doit être auditée. Pourquoi? Et tout simplement pour qu'on puisse comprendre les raisons et déceler vraiment les vrais problèmes. Parce que c'est sûr, vous allez voir, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes. Comme on dit, il peut y avoir des gens qui sont décédés. Voilà, il y a des gens peut-être qui ne sont même pas au Mali pour d'autres raisons. Donc, ils continuent à percevoir. Et c'est en ce moment, à partir de cet audit, l'État doit prendre des dispositions et donner des instructions par rapport à tous les responsables de services de les appliquer systématiquement en fonction des cas. Parce que si vous avez un effectif, l'effectif ne travaille pas. Ou bien il y a un agent qui ne travaille pas, on doit signaler. Il n'est plus dans votre établissement ou dans votre structure. La première chose, c'est de signaler à la DRH. Et ensuite, que les DRH jouent pleinement leur rôle. Ça, c'est le minimum. Maintenant, ceux qui sont dans une situation de volonté de mal agir, parce que c'est ça souvent le cas, est-ce que c'est sciemment préparé avec des complicités pour piller les maigres ressources de l'État? En ce moment, ça, c'est des mesures qu'il ne faut pas tolérer. Pas du tout. Parce que là, c'est mieux vaut prendre les dispositions, mais ces gens doivent être traduits. Parce que ça, c'est des volontés. Il y avait de l'intention. Parce qu'il y a eu des cas dans d'autres pays où, je prends l'exemple du Cameroun, on disait qu'il y a un monsieur qui prenait le salaire de tout le monde. Je me dis comment il a pu faire. Et si c'est de tels scénarios qui se présentent au Mali, je pense que les responsables doivent arrêter et punir. Parce que ça ne devrait pas arriver. C'est pourquoi il dit, si un salaire tombe dans l'administration normale, on sait que le virement est fait. Si le virement est fait, qui fait le virement? Il ne savait pas. Et ensuite, quand le virement, vous savez, quelqu'un prend, qui prend ses salaires? On doit les identifier. Et maintenant, dans les banques, on doit savoir qui est qui prend, qui ne prend pas ses salaires. Et ça, c'est des questions qu'on doit vérifier. Et pour moi, on doit créer toutes les dispositions, on doit prendre toutes nos responsabilités par rapport à cette situation. Et c'est pourquoi je dis, je vais dans l'hypothèse que tout est fait avec la rigueur. Pour ne pas dire qu'après on s'est trompé, au lieu de 36 000, c'est... Voilà. Si tout a été appliqué correctement, je pense que l'État doit faire l'audit. Voilà, l'audit pour comprendre et qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs et que l'administration soit efficace et qu'on soit efficient par rapport à la gestion.
Balou, alors, une autre direction, oui, je fais passer la parole.
Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit docteur. En fait, je pense que, docteur, cette publication-là, ce chiffre-là, c'est suite à un audit, c'est suite à un travail déjà lourdement abattu, hein, où il y a eu vraiment, on a décelé ces chiffres-là. Parce que ça a été fait précédemment, quoi, préalable. Okay. Il y a des gouvernements qui ont eu à donner des chiffres de ce genre. Je pense que même avec le Premier ministre Mara, il y a eu des chiffres par rapport à des fonctionnaires fictifs. Mais en fait, c'est les mesures qu'il faut pour arrêter qui n'ont pas été prises. Aujourd'hui, il y a eu des mesures efficaces pour carrément arrêter. C'est un début. Si ce mois de septembre-là, on arrête tous ces virements de salaire, moi, je suis sûr que tous ceux existent, qui n'ont pas eu leur salaire, qui savent qu'ils sont fonctionnaires, ils vont venir se justifier, ils vont venir s'enrôler et ça va être... On va les enlever dans les chiffres, tant mieux pour eux. Maintenant, ceux qui n'ont jamais existé ou qui n'existent pas du tout, qui sont décédés, qui continuent à percevoir les salaires, ça, on va les enlever. Et les responsabilités seront situées, ça, c'est sûr, parce que la procédure va se développer et le système va changer de stratégie. Une fois on nettoie, la procédure va aller crescendo pour être plus efficace. Voir maintenant comment est-ce que les chefs de service contrôlent leur personnel, comment est-ce qu'ils autorisent à certains de s'absenter. Cette histoire de disponibilité là, qui ne finit pas dans la fonction publique, même ça, il doit avoir des mesures pour encadrer cela. Donc je pense que l'audit là a été déjà fait. Maintenant, les mesures de suivi, d'accompagnement et de correction, là, c'est ce qui est en train de se faire comme ça.
D'accord, c'est ce qui est en train de se faire comme ça. Oui, Balou, j'allais peut-être revenir sur une autre question, un autre volet, hein, qui peut faire peut-être l'objet de ce débat. C'est justement les personnes décédées. Nous avions été témoins souvent de certains faits, des militaires qui sont tombés sur le front, dont les familles n'ont, il y a plus d'une année, plus d'une année et demie, dont les familles restent en tout cas sans gain de cause. C'est-à-dire, quand je dis que sans gain de cause, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore pas commencé à percevoir justement les patients qui doivent être justement octroyés à ces personnes décédées. C'est aussi un cas qu'il faut soulever puisqu'on parle ici d'éléments fictifs.
Non, par rapport à ce cas, il faut faire très attention parce que sous Ibeka, il a été décidé de verser une certaine somme aux familles dont les militaires sont tombés au front. Et ça a été fait. Je prends un exemple terre à terre. Il y a eu un cas où 50 millions de francs CFA ont été donnés à l'épouse du monsieur sans que la famille du monsieur ne soit au courant. et l'épouse du monsieur s'est mise à dilapider les fonds. Donc le grand frère de l'intéressé, qui est même un cousin à moi, est parti se plaindre à la radio Kilidou. Après, il a été révélé que l'argent a bel et bien été donné. Donc parfois, ce n'est pas la faute à l'administration. Il faut être précis. Et même par rapport aux pensions, par rapport aux salaires. Parce que généralement, quand un militaire meurt au front, au-delà de ce qu'on donne en termes de compensation, je crois que pendant 10 ans, la famille perçoit le salaire. Il y a d'autres avantages pour les enfants et autres là, en termes de l'eau à usage d'habitation, etc., etc. Il y a beaucoup de facilités pour eux. Et ça a juste raison parce que c'est des combattants, c'est des guerriers qui ont versé leur sang pour que nous puissions être autour de ces plateaux-là pour débattre des questions dont on parle actuellement. Maintenant, l'autre aspect de la chose. Et il faut un toilettage systématique même de l'administration générale. Et je reviens encore sur ce que Ousmane Christian Diarra a fait au niveau de la fonction publique. Le temps qu'il a passé là, il a procédé à un toilettage systématique. Et je crois qu'il y a même un de ses proches qui en a fait les frais. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, et au niveau de l'administration, il faut mettre fin à une pratique. Les histoires de ça, c'est la liste de X, ça, c'est la liste d'Y. Et c'est ce qui a tout aggravé. Et vous partez au niveau de l'administration, vous allez trouver que des archivistes de la catégorie B sont devenus des administrateurs civils, des gens de la catégorie, de quelle catégorie, sont devenus des inspecteurs des impôts. Je crois que toutes ces pratiques a cessé grâce à son leadership. Et il faut continuer dans ce sens. Et je vais souligner un aspect très important. Vous savez qu'il y a un phénomène aussi qui se passe au niveau des écoles publiques. Souvent, vous trouvez qu'au niveau des écoles publiques, le directeur ou le proviseur, il en profite. Non, c'est la vérité que j'ai dit. Il donne de l'électricité au soudeur. Il donne l'électricité de l'établissement au soudeur. Elles sont comptabilisées sur le dos de l'État. Mais on est là pour dire la vérité. Il donne de l'électricité au soudeur. Il donne de l'électricité au boulanger. Et quand on fait la comptabilité, c'est sur le dos de l'État. Vous pensez que ça, c'est normal?
Des écoles publiques?
Des écoles publiques et d'autres administrations. Pendant la saison chaude, on a vu des administrations où les dames viennent installer leur congélateur et elles sortent la glace pour aller vendre ça au grand public. Vous trouvez que ça... Donc, il y a des problèmes, il y a des grands problèmes, il y a des grands problèmes. C'est le lieu de dire, nous, on n'est pas là pour faire plaisir à X ou à Y, on est là pour dire la vérité. Donc, c'est pour dire que pour... et que l'administration soit assainie, il faut faire des efforts, il faut que le travail continue à se faire. Il faut systématiquement tamiser et prendre les coupables, les juger pour qu'ils servent d'exemple. Et, mais vous, vous êtes un fonctionnaire, vous n'avez pas de disponibilité, vous devez dispenser des cours, en même temps vous êtes dans une ONG. Vous venez vous donner 20 000 ou 25 000 francs au censeur, vous disparaissez dans la nature.
Alors,
vous trouvez que ça se met là? Il y a beaucoup de cas de ces gens-là. C'est la vérité que moi, je vois autour de ce
cas. Mais ces cas que vous soulevez aussi, c'est des cas qui sont aussi fréquents souvent dans nos casernes. Hein.
Mais ça, c'est fréquent partout. C'est ce que je suis en train de dire. C'est fréquent partout, même par rapport aux effectifs des casernes. Vous ne me mettez pas dans la gueule du loup. Tout le monde sait ce qui se passe au niveau des casernes. Tout le monde sait ce qui se passe au niveau du front en termes de dotation, etc., etc. Quand ATT a rencontré les femmes, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, lui, il est le président de la République, il est le commandant en chef des armées. Il y a des hommes sur le terrain à qui, lui, il a confié la troupe, à qui il donne le nécessaire pour distribuer ça aux troupes. Si ils ne font pas le travail, qu'est-ce que vous voulez que lui fasse? Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer au Mali. Souvent, on s'en prend au chef de l'État, on s'en prend à un directeur national. En réalité, souvent, c'est des gens qui sont corrects. Mais les gens, ceux qui ont en charge de faire le travail, ceux qui sont au niveau des services centraux, au niveau des services rattachés, souvent c'est eux qui ne font pas leur devoir par cupidité, par égoïsme, par méchanceté gratuite. Donc c'est le lieu de lancer un appel encore au président de la République, chef de l'État, lui dire qu'il y a encore des chemins à faire et que le désordre reste indescriptible.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, M. Borussi Doukouba? Qu'est-ce que vous proposez au général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, pour qu'on puisse vraiment finir, sortir carrément de cette situation?
C'est que je propose au président de la transition, qu'on se débarrasse des brebis galeuses. Non, le terme n'est pas exagéré. Tous ceux qui sont associés à cette affaire de fonctionnaires fictifs, à cette affaire de doublons, ceux qui cachent les fonctionnaires qui font une double fonction, ceux qui donnent les congés de formation dans le désordre, ceux qui donnent la disponibilité sans tenir compte d'un certain nombre de facteurs, que ces personnes soient sanctionnées au niveau de la place publique et qu'ils servent d'exemple aux autres. Parce que dans ces pays-là, chaque fois, on dit que c'est des chefs de famille.
Sanctionner sur la place publique, cela consiste à quoi faire?
Les sanctionner pour qu'on sache qu'ils ont été sanctionnés. Et les sanctionner par rapport à l'acte qu'ils ont commis. Et c'est ça le plus important. Que ce ne soit pas seulement au niveau de l'administration, que ce soit même au niveau des forces armées, que ce soit au niveau de nos corps paramilitaires. Donc, il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur certaines choses. Non, non, non. Parce que quand tu dis la vérité dans ce pays, on dit que tu es égoïste, ou bien tu es méchant, tu es aigri. Nous, on n'est pas des aigris sociaux. Pour terminer, je termine par la presse. Parce qu'au niveau de la presse aussi, c'est un désordre indescriptible. Non, pour la petite histoire, il y a un monsieur qui a dit que lui, il a une licence. Je crois qu'il a tendu le micro à un monsieur. Le monsieur lui a dit que je vais porter plainte contre l'université où tu as eu ta licence. Parce que tu ne mérites pas ta licence. Donc le malaise est général. Il y a un malaise. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut développer les ressources humaines. On veut que le Mali soit un pays émergent. C'est comme ça que le Mali va devenir un pays émergent. Le Mali ne peut pas devenir un pays émergent dans ces conditions. Donc il faut mettre fin à ces dodos-là, à ces bordels-là.
D'accord.
Nous voulons que le Mali soit un pays émergent. On est là à former les écoles catholiques. Alors que les écoles catholiques sont en train de. On forme beaucoup de cadres.
D'accord.
Des précieux cadres.
C'est bien noté.
Par contre, il y a des lycées qui ne répondent même pas.
Monsieur Vega, rapidement. Monsieur Balouci Dougouba va revenir sur son piédestal. C'est bien pour lui. Alors oui, si réellement ces faits sont réellement les 36 000 fonctionnaires effectifs, on sait très bien que ça a été annoncé. Est-ce qu'il y a des têtes qui doivent tomber, les sanctions? Est-ce que vous êtes partant?
Bon, si c'est confirmé et qu'il y a des cas avérés de détournement et de malversation, bien sûr que la loi va se tenir dans toute sa rigueur. On va pas faire des dessins. Il y a des cas qui sont en cours, donc. Tout ça va se faire réellement. Mais maintenant, si c'est confirmé, ce qui va nous réconforter le plus, c'est que 48 milliards de nos francs, c'est quand même beaucoup en cette période très difficile que le pays traverse. Voilà, au lieu d'aller recourir à des prêts sur le marché financier, etc., etc., ça va permettre de réhabiliter des écoles publiques. Ça va permettre même d'enrôler ou bien de recruter encore des enseignants dans certains secteurs. Figurez-vous qu'il y a des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Il y a des villages reculés au Mali où un seul enseignant, il est le directeur et il dispense plus de 4 matières. Il y a des écoles comme ça dans le pays, écoles publiques, alors qu'il y a l'argent public, qu'il y a des gens qui sont ici à Bamako, dilapident comme ils veulent. Vous voyez, 48 milliards, ça va permettre de construire des centres de santé communautaires. Ça va permettre de réhabiliter des hôpitaux, ça va permettre d'enrichir encore le plateau technique de certains hôpitaux régional et sous-régional. Et c'est beaucoup de choses. L'incidence est énorme et le travail a été efficacement fait. Maintenant, recouvrer cet argent pour aux besoins du budget de l'État, pour avoir certains, même les forces armées encore, des primes et assurances pour les soldats qui sont engagés au front. Tout ça, ça pourrait servir, en fait, cet argent. Donc, on va encourager cela et accepter que ces choses comme ça se passent. C'est ça, la refondation. Il faut que les Maliens se le disent, qu'ils voient.
Hein, c'est la refondation. Une refondation qui est en cours. Bon, vous n'avez pas la parole, M. Agali Wele, si vous avez un dernier mot là-dessus.
Et par rapport à cette situation, pour moi, l'idéal, c'est que ces fonds, vraiment, soient remboursés. Et ceux qui sont coupables, qui remboursent systématiquement. Et qu'on prenne les dispositions vraiment pour ceux qui avaient des intentions vraiment réelles de nuire à l'État et de les mettre, comme on dit, dans les dispositions requises et pour qu'on puisse ne pas répéter les mêmes erreurs. Et comme j'aime le dire souvent, on se plaint de manque de ressources, mais le peu qu'on a, il faut soit qu'on puisse maximiser. Avec ce montant, on peut beaucoup faire. Et l'État doit élargir cette pratique dans les autres secteurs. Et je prends un exemple. Le secteur du commerce, les gens, il y a beaucoup de commerçants qui ne tiennent pas une comptabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense juste à l'administration ordinaire aux fonctionnaires. Mais ce que l'État peut gagner en organisant ce secteur, à travers la fiscalité, c'est énorme. Et j'invite l'État à être plus regardant par rapport à ça. Il y a des gens qui font des chiffres d'affaires énormes par jour, ils n'ont pas de comptabilité.
D'accord.
Et c'est difficile. D'accord. Et je pense que si chaque service, chaque commerçant puisse appliquer ses principes, l'État gagnera mieux et dans tous les secteurs, si on peut informatiser.
D'accord, Baro, je vous donne 30 secondes.
Pour 30 secondes. Le procureur Toubou a dit qu'entre 2020 et 2024, 4 ministres ont détenu 80 milliards de francs CFA. Et j'ai eu une information capitale aujourd'hui. Et je parle au conditionnel. Par rapport à mon mentalité, on dit que les travaux sont en train d'accuser les retards parce qu'il y a une affaire de 4 milliards de francs CFA qui existe. Mais comment voulez-vous que ça aille dans ce pays-là? Ça ne peut pas marcher dans ce pays-là. Il faut que Oumar, toutes les dispositions soient prises pour à l'avenir éviter ce genre de crimes. Parce qu'un pays pauvre comme le Mali, qui a tendance à se tirer d'affaires, et qu'on dise que 48,28 milliards de francs CFA ont été détournés par des individus véreux et qu'il n'y a pas de sanctions, nous on n'est pas d'accord. Il faut que les sanctions tombent, il faut qu'on sache que les sanctions sont tombées. Parce que c'est comme des malfrats. On nous présente des malfrats, le visage fermé à longueur de journée à la télévision. Je crois qu'un voleur de Jakarta quand même vaut mieux que ce genre d'individus. D'accord. Lui, celui qui mérite la vindicte populaire.
D'accord, un voleur de Jakarta, vous voyez que c'est individu. Ce sont les mots de M. Badossi Dikoba. Ce sont ces mots que nous allons, mesdames et messieurs, passer au second sujet de ce débat qui revient sur cette condamnation, si l'on peut dire, cette indignation des ministres en charge de la justice de la Confédération des États d'Israël. En tout cas, c'est à travers un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassougué, justement, a parlé de cette, en tout cas fait part de cette communiqué de presse hein, des différents ministres de la justice d'Israël, à savoir le Burkina, le Mali, et le Niger, condamnant les actions mais aussi les harcèlements visant les militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes. Voilà, donc les panafricanistes concernés par cette déclaration, il s'agit de et Nathalie Yambe, de Franklin Nyamsi, de Kimi Seba ou encore de Ibrahim Meiga et aussi de l'activiste burkinabé qui est en tout cas mort selon le communiqué dans des circonstances douteuses du côté de la Côte d'Ivoire. Agali Wele, oui, vous l'avez justement vu ce communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale. Un mot là-dessus.
Et effectivement, j'ai vu le communiqué. J'ai lu, j'ai écouté et pour moi, ce communiqué devrait venir plus tôt que prévu et plus tôt que ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte géopolitique très particulier et qui demande que chacun se défende de façon avec la méthode appropriée. Aujourd'hui, ces personnes qui sont citées, effectivement, nous avons tous l'information qui subissent peut-être certaines situations parce que lui a leur position. Et quand on analyse, ça va en droite ligne avec la géopolitique actuelle. Et pourtant, il y a d'autres qui ont certains comportements, entre guillemets, similaires à l'encontre de l'Est et qui sont sur ces territoires qui ne sont pas sanctionnés. Et quand on regarde, c'est une prise, en fait, de position en fonction de son intérêt. Quand on sanctionne ces personnes qui sont harcelées, entre guillemets, c'est parce que c'est des leaders d'opinion, je peux dire, et c'est des personnes qui ont développé un leadership et qui sont en train d'aller dans une logique en faveur de l'AS. Et là, ceux qui ne sont pas pour, ils vont faire tout pour les mettre dans une situation difficile. C'est pour les entraver à faire leur activité. C'est pour les obliger à se taire une fois pour toujours. Ou bien c'est pour donner l'exemple à ceux que les autres n'emboîtent pas leur pas. Et ça, c'est de la bonne guerre. Et quand on regarde, l'AS, ce communiqué, ça est un communiqué de soutien. Et je pense que ça devrait venir plus tôt. Et tous ceux qui sont dans la même situation, en fait, ont plus ou moins des situations difficiles. C'est-à-dire tous ceux qui encouragent l'AS, qui sont dans la posture de défendre ces pays, ont plus ou moins, même dans d'autres pays, si on te identifie, tu as des difficultés. Et c'est réel. Ça, c'est des situations qui sont là. Et mais comme c'est ces pays qui pensent qu'ils sont des pays de droit, et qui, pour des mots, des arguments, ils prennent des décisions contre ces personnes. Quand ils prennent Nathalie, par exemple, qui a même interdiction de séjour, même de survoler le territoire, je pense que c'est extrême. Et c'est une personne, elle a sa liberté, elle s'exprime, elle a fait un choix. Et je pense que c'est parce que ces pays se sentent menacés. En fait, moi, je vais dans cette logique. Et c'est la triste réalité, les choses sont en train de basculer à leur défaveur. Donc, ils sont obligés de sanctionner. Et il fait un moment, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, ceux qui prennent ces dispositions, qui prennent même ce leadership pour sanctionner ces leaders et panafricanistes, en réalité, ne sont pas dans les bonnes postures. Parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas plus de répondre non. Ils essaient d'utiliser les méthodes fortes aujourd'hui. Et tous ceux qui sont dans la situation, Kémy Séba a les mêmes difficultés. Maïga, il a tous les mêmes problèmes quand il passe dans les pays. Etc, etc. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres. Les jeunes Ivoiriens qui a eu le même problème. Les jeunes, on appelle Bagbo, ou quoi là, les jeunes là, il y a un jeune qui est très actif, mais ils sont nombreux. Et quand nous connaissons cette situation, et je pense qu'on doit soutenir des gens qui soutiennent la position géopolitique de l'AS. Okay. Voilà. Et c'est un communiqué qui est venu, mais pour moi qui devrait venir plus tôt.
Oui, donc un communiqué tardif. Mais Monsieur Maïga, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a du mal à ce que... Déjà, on connaît le combat de ces panafricanistes aujourd'hui. Hein. C'est le combat contre le libéralisme, c'est le combat contre l'Occident, en l'occurrence la France. Alors, si ces mêmes pays décident de ne pas vous octroyer des visas, de ne pas vous autoriser à survoler leur espace, je pense que ça doit être un motif de réjouissance pour eux quand même.
Oui, bon, c'est de bonnes guerres. Je pense que c'est des gens qui s'attendaient à ces genres de positions à leur égard. Parce qu'ils savent que, de manière continue, ils ne cessent de ressasser, de dénoncer les pratiques néocolonialistes à l'encontre de nos différents pays, parce que ce sont des défendeurs du panafricanisme. Ce n'est pas seulement l'AES, hein, c'est carrément l'Afrique qu'ils défendent sur certains points contre les impérialistes. C'est un communiqué de soutien qui va en droite ligne pour montrer à ces pays-là que ces gens-là défendent quelque chose, des idéaux qui existent. Et les pays européens, je pense qu'ils ont, sous l'influence de la France, ont adopté des sanctions contre eux, parce qu'aujourd'hui, leur voix porte, hein, les non-cités, là, leur voix porte, parce qu'ils sont en train de dénoncer des pratiques, et les pays européens, les habitants, les citoyens européens sont en train d'apprendre certaines choses que leurs responsables ont pratiquent dans nos pays, politiquement, qui ne doit pas être, qui ne vont jamais accepter que ça se fasse sur leur territoire. Donc aujourd'hui, ils se sentent vraiment menacés par les dénonciations de ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'ils commencent à adopter des mesures comme ça contre eux. Mais ça ne va pas les arrêter, ça ne peut pas les décourager. Parce que nous avons vu avec Kémi Séba, il ne s'en est pas arrêté là, il continue toujours. Voilà, c'est la même chose que la dame de Scotchy, comme on dit là. C'est la même chose, elle n'a pas voulu arrêter, elle continuera toujours. Ces anciens-là, pour eux, c'est juste des écrits, mais pour eux, ça va au-delà. Pour eux, leur défendre du panafricanisme et des pays de l'AES, c'est quelque chose de plus fort et de plus profond. Donc, ce n'est pas les sanctions de l'Union européenne qui vont les arrêter. Ils retourneront alors dans les différents pays pour continuer à exercer cela. Seulement le public à qui il s'adresse va changer.
Voilà. D'accord, le public à qui il va changer. Oui, Badossi Dikouba, vous êtes justement journaliste, mais vous êtes aussi écrivain, historien de formation. Mmh. Alors la notion du panafricanisme, quand même, on a quand même l'impression que c'est aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens pensent, ce ne sont pas les positions, la pensée du présentateur que je suis. Hein, cette notion de panafricanisme, est-ce qu'elle n'est pas en train de perdre son sens? Parce que déjà, ceux-ci même qui sont censés porter le panafricanisme en eux, justement ne répondent pas en tout cas aux critères qui avaient été justement dictés par les pères fondateurs. Je veux parler ici de Kwame Nkrumah et d'autres panafricanistes en tout cas qui ont mis en vogue ce mot depuis belle lurette.
Oui, par rapport au panafricanisme, moi je dirais qu'il y a deux époques. Vous l'avez dit, il y a l'époque de l'Osagyefo Kwame Nkrumah, il y a l'époque d'Aimé Césaire, il y a l'époque de Marcus Garvey, il y a l'époque de Martin Luther King, l'époque de Langston Hughes, de Kunti Kinen, de Claude McKay, etc., etc. Et il y a cette époque. Parce qu'à l'époque, il s'agissait de valoriser la négritude. Il s'agissait de lutter contre le racisme, contre la colonisation. Donner aux Noirs sa place dans le monde. Parce qu'à l'époque, le Noir était traité comme un bois d'ébène. On traitait le Noir de bois d'ébène. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Nous sommes des États indépendants à la recherche de notre indépendance économique, même s'il y a la souveraineté politique. Je crois que la démarche de Nathalie Yambo, de François Nyamzi, de Francis Nyamzi, de Kémi Séba, d'Ibrahim Meïga entre dans ce sens. Donc leur objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les pays de l'AES servent de locomotive au reste du continent africain pour que nous sortions des griffes de l'impérialisme, pour que sur le plan économique, nous ayons les ressources nécessaires pour pouvoir continuer notre chemin. Je vais revenir sur le cas de la France. La France, terre des droits de l'homme. La France, terre de la statue de la liberté. La France, place de la concorde. C'est cette France-là qui a eu l'inconscience de fermer Richard Today et Sputnik. Au même moment, la France s'en prend au Mali, au Burkina et au Niger parce que des chaînes comme RFI France 24 ont été fermées. Vous voyez le paradoxe. Et Nathalie Yamb a été interdite de séjour en France tout simplement qu'elle a eu à faire des dénonciations. Le cas de Kémi Séba qui a été déchu de sa nationalité française, heureusement que Niger lui a remis un passeport diplomatique. Il transite par la France, on l'interpelle, on essaie de l'incarcérer. Grâce à la promptitude de son avocat, et il a pu se tirer des griffes de la justice française. Comment vous expliquez ça? C'est pourquoi j'ai dit, dans ce monde actuel, il faut faire attention. Il n'y a pas de pitié. C'est pourquoi il faut saluer l'initiative de la naissance de la Confédération d'Israël. Parce qu'il faut qu'il y ait des États confédérés. Il faut qu'il y ait des États fédéraux. Et je crois que Modibo Keïta et Senghor ont eu l'ingénieuse idée de tenter la Fédération du Mali, qui malheureusement n'a pas eu pu continuer son chemin à cause du comportement de certains de nos leaders, dont je ne vais pas citer le nom autour de cette table. Donc, grosso modo, on peut dire que le travail que ces leaders panafricanistes sont en train de faire, c'est un travail remarquable aujourd'hui. Et grâce à nos leaders, à nos aînés et à nos anciens, ce qu'ils sont en train de faire, je crois que s'inscrit dans la droite ligne de la postérité. Parce que ce sont les combattants de la liberté aujourd'hui victorieux. C'est ce que les Occidentaux ne veulent pas entendre.
Ok. Et voilà. Okay. Oui, rapidement, je me disais la même question que j'ai posée justement à M. Omega, consultant. Est-ce que réellement nous ne pouvons pas mener notre rôle, notre mission de panafricaniste sans pour autant qu'on ait besoin de la France? Parce qu'aucun d'entre nous ici n'a peut-être, on va dire, d'intérêt avec la France aujourd'hui. Pour nous, ce qui compte, c'est vraiment le développement de nos pays, les États de l'AES. Est-ce que réellement on a besoin de ça pour aller séjourner en France, pour aller séjourner en Europe? Est-ce qu'on ne peut pas mener le combat sans pour autant que nous n'ayons forcément besoin de la France?
Moi, je n'aime pas rentrer dans les plaidoyers pour demain. Moi, je suis un Bolivarien et vous le savez très bien. J'ai séjourné récemment au Venezuela. J'ai rencontré l'ambassadeur de Cuba au Mali pour vous dire que je ne sais pas si la même longueur d'onde que la France et les Français. J'ai une autre vision du monde, j'ai une autre perception du monde. Donc, on peut se développer sans passer par la France, sans passer par X ou Y. Nous avons toujours les yeux rivés sur la France parce que la France est l'ancienne puissance coloniale. Et aujourd'hui, avec l'AES, nous avons décidé de nous réorienter vers d'autres horizons pour pouvoir vraiment vivre dans des conditions décentes, jouir pleinement de nos ressources. Vous le savez, récemment, les États-Unis ont dépêché une délégation au Mali pour prendre langue avec nos autorités parce que les Américains sont intéressés par notre lithium. Et aujourd'hui, les centrales nucléaires françaises n'arrivent plus à fonctionner parce que le Niger a dit à Orano, par rapport à notre uranium niet, vous n'allez plus toucher à notre uranium, notre coton, notre or. Donc c'est pour dire que nous avons de la matière, même si certains sont pessimistes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut mettre l'accent sur nos ressources humaines pour que nous puissions exploiter nous-mêmes nos ressources, jouer de nos ressources. Et que nos autorités mettent l'accent sur trois choses. L'autosuffisance alimentaire, l'éducation et la santé. C'est ce que l'ambassadeur de Cuba nous a dit. Il dit que quand l'URSS est tombé, beaucoup pensent que Fidel Castro est tombé, mais malheureusement pour les Américains, il n'est pas tombé parce qu'il a mis l'accent sur ces trois facteurs.
Okay.
Facteurs. Donc, mettons l'accent sur ces trois facteurs. Okay. Pour terminer, permettez-moi de vous dire une chose. Aujourd'hui, Paris a les yeux rouges parce que nous ne vendons plus notre coton n'importe comment. Les Français venaient payer notre coton à 80 francs. Ils partaient fabriquer des pierres cadrées, des Yves Saint Laurent. Quand nous, on était au lycée, on venait nous présenter ça, c'est 20 000, 25 000. On était contents de porter ça. Vous voyez le nègre, il faut qu'on change.
Mais apparemment, vous êtes un bourgeois, vous arrivez déjà à payer des habits à
20 000 francs. C'était la folie de la jeunesse. Tu me dis de payer une chemise à 25 000 francs aujourd'hui, mais je ne vais pas le faire par ce temps du cours, mon cher.
Difficile, difficile. Oui, alors, rapidement, nous sommes vraiment pris par le temps, docteur Agaline Oulé. Alors, c'est quand même un combat noble, vous l'avez justement soulevé sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce que c'est panafricaniste? Parce que nous avons aussi des gens ici qui ont aussi soutenu, en tout cas, c'est l'espace AES, les idéaux, quand même souverainistes et même voilà, et panafricanistes, mais ces personnes n'ont pas été citées lors de ce communiqué, même si on a l'impression qu'elles ne sont pas harcelées, comme le cas de Nathalie Yambo, comme le cas de Kémy Séba ou encore Franklin Yamsi. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi faire un clin d'œil à ces personnes aussi, de chez nous, au sein des vers Sahel, qui en tout cas font un travail remarquable aussi pour défendre les idéaux? Rapidement.
Et c'est une observation et je pense que ça dépend de l'objectif parce que nous sommes dans un terrain stratégique, surtout politique. Et pourquoi ils ont cité certains, ils n'ont pas cité d'autres, je pense que la liste elle est longue. Et ce que moi je vais juste ajouter ici, il faudra que nous, Africains, précisément, et je dirais le Mali est un pays grand. Le Mali est un grand pays. Le Mali est un grand pays comme le Niger, comme le Burkina. Le Mali est un pays riche, très riche, comme le Niger, comme le Burkina. Et j'invite tous les Maliens, tous les citoyens de ces trois pays, tous les documents où c'est annoncé que nous sommes des pays pauvres d'enlever. Vous savez, on nous a injecté cette information. on nous a formés, formatés. Et de telle sorte que tout le monde pense qu'on est pauvre. La pauvreté, elle est déjà mentale. Quand vous l'acceptez, vous serez pauvre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, dans nos pays, sont fiers de dire qu'ils vont de l'autre côté. Soit faire des études, soit aller travailler. Et ils se sentent inférieurs par rapport à ces pays. Okay. Et c'est très qui se fait actuellement. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience qui doit être collective.
D'accord.
Et qui fait en sorte que tous les citoyens de ces trois pays, même les autres pays de l'Afrique, se rendront compte qu'ils ont la richesse.
D'accord.
On nous exploite. Parce que c'est nous qui les vendons. Et celui qui vend, c'est le plus riche. Ils prennent nos matières premières et vont les transformer. Parce qu'on n'a pas peut-être si à son temps.
D'accord.
Et c'est le moment et l'air est là pour qu'on puisse prendre les choses en main.
D'accord. Rapidement, M. Maïga, en 30 secondes pour finir ce débat.
La question, vous me rappelez, c'était...
Oui, c'est juste, gros, voilà.
Voilà, je vais toujours dans son article, comme il a dit, hein. Il faut, la pauvreté, elle est mentale. On nous a déjà inculqué que nous sommes des pays pauvres, pendant qu'ils savent, ils connaissent nos potentialités, ils savent déjà ce qu'il y a, ils sont déjà assis sur nos richesses et ils nous ont mis en tête qu'on est pauvres. Pourtant, ils sont là, ils ne veulent même pas partir. Quand on leur dit de nous laisser nous-mêmes assurer notre propre défense, ils ne veulent pas partir. Ça veut dire qu'on n'est pas aussi pauvres que ça. Donc, dire à nos pays frères et amis qu'il faut continuer à perdurer, à encourager le panafricanisme et soutenir nos acteurs panafricanistes qui traversent le monde, qui essaient de défendre en fait l'Afrique, que de dénoncer ces pratiques néocoloniales. Il faut continuer à les encourager, il faut les supporter pour qu'ils puissent mener le combat noble qui est le nôtre. C'est pour nous tous.
D'accord, c'est pour nous tous. Hein. Et ce sont ces mots de M. Maïga Asseidou Aha que nous allons refermer ce numéro de votre émission Le QG de l'Actu. On est très heureux, en tout cas, de vous présenter cette émission. Je rappelle qu'on avait comme invité Badou Sidi Kouba, il est directeur de publication du Triomphe du Mali et les Carrefour. C'est un plaisir,
si
M.
Badou. Tout juste quelques secondes. En 96. Au niveau de l'amphithéâtre de la Sorbonne, le président Alpha Omar Conari a dit aux Occidentaux, si vous ne respectez pas ce balayeur de la rue qui est africain, pas la peine de respecter nous les dirigeants africains.
Très bien, merci pour ce rappel historique. Hein, et clin d'œil à Alpha Omar Conari, voilà, ancien président de la République du Mali, et à la première dame Adamba Conari, qui nous suivent également aussi. Merci à vous et merci à M. Docteur Ali Di Agali Wole, analyste et spécialiste de santé publique et communautaire. Merci infiniment, M. Wole. Troisième invité, Asseidou A. Maïga, il est consultant, merci à vous. Gros clin d'œil à l'équipe de réalisation, toujours au four et au moulin, en tout cas pour nous accompagner. Grâce à eux, vous avez des bonnes qualités sonores, mais aussi des images, en tout cas. Merci à Augustin Echoubéi, Youssouf Sangaré, Mourlaï Touré, Lamine Koulibaly, Moussa Hydra. Retrouvez la rediffusion de cette émission dès demain, lundi, sur les ondes de Djoliba TV News, c'est à 9h. Merci et à très vite. Au revoir.